Jean-Hervé Bradol, bonjour.
Bonjour.
Pourquoi faut-il un deuxième vaccin en République démocratique du Congo pour lutter contre Ebola?
Bah déjà, par principe, dans toute action de santé publique, on va chercher à avoir plusieurs sources d'approvisionnement. De plus, il y a un problème parce que le premier vaccin par ordre chronologique, celui de Merck, il n'est pas disponible en quantité où les acteurs de la réponse voudraient l'utiliser. Il faut remarquer que même ces acteurs, dont nous, hein, Médecins sans frontières, on était resté sur une utilisation en cercle autour d'un cas confirmé pour protéger l'entourage et que cette utilisation, c'est une utilisation pour finir des épidémies, la grande épidémie historique de variole ou la dernière épidémie d'Ebola. On ne peut pas dire qu'on connaisse encore la façon optimale d'utiliser ces produits dans le cadre du contrôle de l'épidémie, donc on tâtonne.
C'est quand même des vaccins qui sont expérimentaux. Pourquoi décider d'élargir à des gens qui ne sont pas en contact direct avec des cas confirmés?
Les seules propositions qui paraissent un peu solides qu'on voit circuler, c'est quand même de ne pas passer à très grande échelle avec ce deuxième vaccin, mais de le tester un peu comme le premier a été testé en Guinée il y a quelques années. Alors, si on en est là, c'est parce que on n'arrive pas à contrôler l'épidémie. Les épidémies d'Ebola sont pas censées durer aussi longtemps. Là, ça fait un an. Un foyer comme Béni, il reste complètement actif au bout d'un an. Donc, il y a un certain désarroi face à cette épidémie. Donc, il y a une recherche de procédures alternatives, quoi. Mais c'est des procédures qui, par définition, sont hasardeuses en l'état des connaissances.
Parce que l'idée, c'est que la riposte à l'heure actuelle a du mal à faire le suivi de tous les cas suspects sur 21 jours, c'est-à-dire la période d'incubation de la maladie, que ça risque de dépasser les forces de la riposte.
Bah, ça dépasse déjà les forces de la riposte. Ce suivi là, des personnes qui ont été en contact avec un cas confirmé, c'est réalisable à petite échelle, mais là on parle de villes à l'échelle du million d'habitants. Donc ça fait une complexité logistique, une complexité sociale aussi, qui est très 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 élevée, hein.
C'est vraiment la nécessité qui pousse aujourd'hui à se dire que la solution au vu des deux dernières épidémies d'Ebola, ce n'est plus seulement une solution de suivi des cas suspects, mais plutôt justement d'essayer de confirmer le bienfait de certaines substances, vaccins ou traitements.
On cherche dans cette direction-là parce que pour l'instant, on s'estime quand même en échec et on regarde les vaccins parce que c'est quand même un outil médical très commode. Mais on n'a pas non plus de connaissances établies montrant que si on faisait un cordon vaccinal très très large, c'est-à-dire en vaccinant des centaines de milliers de personnes, voire des millions autour des cas, on n'a pas l'assurance qu'on arrivera à mieux contrôler la maladie. On regarde des possibilités dans cette direction-là, mais on n'a aucune certitude. Et en ajoutant à ça que on ne sait pas si vacciner à très grande échelle bloquerait effectivement la diffusion de la maladie. Le temps que ça prend, est-ce que l'épidémie sera pas finie avant que cette vaccination ait pris place? Parce qu'il faut l'organiser, hein. Ça prend des mois quand même. Ça me semble rendre assez hasardeuse la possibilité d'une utilisation à très grande échelle. Bon, par exemple, dans les grandes épidémies de méningite, avant l'apparition d'un nouveau vaccin il y a quelques années, entre 1975 et le milieu des années 2000, on a vacciné contre la méningite en période épidémique sans savoir si ça servait à quelque chose et probablement ça n'a pas servi à grand-chose.
On vaccine aujourd'hui les femmes enceintes après 3 mois de grossesse. On vaccine aussi les enfants de plus de 6 mois. Pourtant, il n'y a pas beaucoup de données sur les uns comme les autres sur le premier vaccin, donc le vaccin de Merck. Est-ce que là aussi, ce n'est pas un risque?
Quand on voit la très très forte proportion de décès quand les femmes enceintes ou les jeunes enfants sont touchés par le virus, cet argument-là, hein, c'est les très très grosses mortalités qui font qu'on est amené à prendre des risques, les patients comme les prescripteurs, si on le veut. Ça doit rester une étape très importante, le fait de retranscrire au personnel et aux patients toutes les incertitudes et d'essayer de les discuter avec eux.
Le nouveau patron de la riposte, le professeur Jean-Jacques Muyembe, dit lui que c'est important d'arriver à obtenir un vaccin homologué ou des vaccins homologués, des traitements homologués pour Ebola, et que c'est un investissement presque nécessaire à faire pour la RDC, qui est le pays principalement touché par cette maladie. Est-ce que c'est un point de vue qui se justifie?
C'est un point de vue qui est justifié, mais dans toutes les histoires comme celle-là, ce point de vue qu'on retrouve à chaque fois, hein, il est à mettre en balance avec les intérêts des malades comme individus à soigner. Les agendas sont toujours les trois mêmes. Il y a la recherche, la prise en charge clinique des patients et la formation des personnels. Et ces trois grandes catégories d'objectifs, en mettant la clinique, la prise en charge clinique en premier, hein, elles entrent parfois en contradiction les unes avec les autres. Donc, il n'y a pas de recette miracle pour évacuer ces contradictions. Seul le débat est un débat ouvert, hein, pas un débat dans des cercles fermés d'experts, mais un débat auquel les citoyens, finalement, puissent assister, permet de prendre des décisions équilibrées. Quoi. Et ça, les dirigeants de la riposte, ces contradictions-là qu'on a, elles doivent être débattues, discutées publiquement, et on ne doit pas verrouiller en communication des interrogations tout à fait légitimes mais sur les grandes incertitudes des réponses médicales dans ces moments-là.
Jean-Hervé Bradol, merci.